Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Emmanuel Godot, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes médecin de santé publique, enseignante chercheuse à l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique, et vous serez l'invité du premier café de l'espace des sciences de l'année. Ça se passe ce mercredi 8 janvier à partir de 18h30, comme toujours au café des Champs Libres à Rennes, et c'est un rendez-vous qui est accessible librement. Alors vous avez travaillé de nombreuses années dans l'éducation nationale avant de devenir enseignante chercheuse. La recherche, elle permet de venir questionner des intuitions et puis de donner des éléments concrets pour comprendre certains phénomènes. Depuis 2000, vous êtes responsable pour la France d'une enquête internationale, je vais donner son titre en anglais, Health Behavior in School Age Children, c'est son nom, qui en fait depuis 2018 a été regroupée avec une autre enquête internationale pour aboutir à celle qui nous intéresse et qui s'appelle En classe. Est-ce que c'est bien résumé ?
C'est parfaitement résumé. Alors même, je vais vous dérouler l'acronyme En classe. C'est Enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances. Et joie bonheur, ça fait En classe pour une enquête qui se déroule en classe, en milieu scolaire, au collège et au lycée.
Comment se déroule cette enquête ? Elle concerne combien de jeunes et puis est menée à quelle régularité ? C'est tous les ans ?
Alors désormais, puisqu'on a fusionné deux enquêtes qui se déroulaient tous les 4 ans, mais pas les mêmes 4 ans, on l'a fait tous les 2 ans. Et elle concerne, selon les années, entre 10 et 20 000 élèves dans toute la France. Hexagonale, mais on a aussi une déclinaison dans les DROM qu'on ne fait pas en même temps, qu'on décale d'un an pour des raisons d'organisation. Mais donc du coup, on interroge tous les jeunes français de la 6e à la terminale.
C'est des questions qui leur sont posées sous forme de questionnaires ou il y a aussi des entretiens ?
C'est un auto-questionnaire donc, qu'on teste avant pour être sûr qu'il tient dans une heure classe, pour être sûr qu'il est compris par notre population cible, donc par des élèves de la 6e à la terminale, par des élèves de lycées professionnels comme de lycées généraux. Donc on s'assure de ça. Et puis après, ce sont des enseignants qui ne sont pas en responsabilité directe avec les élèves qui leur font passer l'enquête sur ordinateur, en salle informatique, dans leur collège ou leur lycée.
Les questions qui leur sont posées, elles concernent la santé physique et mentale ?
Elles concernent la santé au sens de l'OMS, c'est-à-dire la santé physique et mentale et le bien-être.
Donc l'OMS qui est l'Organisation Mondiale de la Santé. Les derniers résultats de l'enquête en classe, ils datent de 2022. Un travail mené par l'EHESP où vous travaillez, l'École des Hautes Études en Santé Publique, en partenariat avec l'Observatoire Français des Drogues et des Tendances Addictives. Le principal constat, et c'est le sujet du Café de l'Espace des Sciences dans lequel vous interviendrez ce mercredi, le principal constat c'est le suivant. La santé mentale des adolescents se dégrade depuis maintenant plusieurs années. Ça se matérialise comment ?
Alors donc, on est bien d'accord que là, on est dans de l'auto-déclaratif. On demande à ces adolescents comment ils vont. Et je voudrais insister sur un truc qui est que pour savoir comment vont des adolescents ou des personnes en général, c'est à ces personnes-là qu'il faut demander. Donc, on ne va pas demander à leurs médecins, on ne va pas demander à leurs parents ou à leurs profs comment ils vont. On va leur demander à eux. Donc, on en revient à la nécessité que les questions, ils les comprennent bien. Et ensuite, le deuxième postulat, c'est qu'on va croire ce qu'ils nous disent. Partant de ce principe, le constat, c'est que s'ils nous disent qu'ils se sentent en bonne ou en excellente santé dans leur majorité, puisque presque 8 lycéens sur 10 nous disent ça, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous alertent.
Bon, c'est sans doute pas nouveau que l'adolescence est un âge particulier, notamment caractérisé, on va le dire, par une instabilité émotionnelle, on peut le dire comme ça ?
Oui, on peut.
Mais tout de même, il y a une évolution avec plus d'un élève sur 10 qui présente un risque important de dépression en France aujourd'hui. Il y a donc de quoi s'alerter
Il y a de quoi s'alerter parce que si on ramène ça à une classe de collège ou de lycée, Donc, en gros, entre 25 et 30, ça veut dire que, en gros, on a plus de 4 élèves par classe qui sont à risque de dépression. Donc, c'est considérable. Ça veut dire que ça concerne, du coup, tous les enseignants de notre pays, que d'être attentifs à repérer ces élèves-là, et qui sont justement des élèves qui ne dérangent pas vraiment, parce qu'ils peuvent être en retrait, pas bruyants, ils sont là. Et c'est pas des élèves qui réagissent, qui répondent, qui mettent le bazar. Non, donc ils se remarquent moins. Pour autant, ils vont pas bien. Et je rappelle aussi que pour le lycée, on a quand même 13% des lycéens qui ont fait dans leur vie une tentative de suicide. Et même 3% une tentative si grave qu'elle a donné lieu à une hospitalisation. Donc presque un par classe. Donc on voit bien par ces chiffres que quand même c'est inquiétant. En tout cas, on doit faire quelque chose.
Alors depuis quand est-ce qu'on observe ce phénomène ? Je crois que ça a commencé un peu avant le Covid, mais que c'est vraiment pendant la crise sanitaire qu'il y a eu un changement de dynamique, quoi.
Exactement. Tout s'est exacerbé, et pas qu'en France d'ailleurs, à partir de la crise sanitaire, du fait vraisemblablement des confinements qui ont très très altéré la vie des adolescents et donc par conséquent leur santé mentale. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que depuis qu'on est sorti de la pandémie, ça ne s'est pas amélioré.
Donc on arrive à la grande question, quels éléments pour comprendre cette évolution dans la santé mentale des adolescents ? Qu'est-ce qui pèse donc si lourd sur les épaules de ceux qui ne sont plus des enfants, sans être encore des adultes ? C'est la question qui sera explorée avec vous lors du Café de l'Espace des Sciences ce mercredi 8 janvier en soirée. Pour commencer, on imagine qu'il y a peut-être l'évolution des outils de communication et leur place dans nos vies qui joue sans doute ?
Bien sûr, c'est-à-dire l'évolution de notre société. Être adolescent, ça n'a jamais été un moment facile parce que c'est un grand moment de chamboulement, à la fois physique, psychique, social, tout ça. Bon, c'est pas nouveau. Mais du fait du changement de la société de l'information, là, ils sont à la fois surexposés via les réseaux sociaux. La place de l'image est devenue très très importante. Donc là, notamment, ça impacte la santé mentale des filles. Et puis aussi, comme ils ne font pas que des choses négatives sur les réseaux sociaux, ils s'informent aussi. Et être en permanence soumis à des informations qui sont quand même plutôt inquiétantes.
On pense au contexte géopolitique, à la crise climatique.
Exactement. Et on sait aussi que les adolescents sont... cette âge de la vie est fait d'engagement. Donc... on voit bien que concernant par exemple la crise climatique, les adolescents sont en première ligne et donc on comprend bien que ça les impacte encore plus fort que les adultes parce que c'est un moment d'engagement et puis aussi que c'est leur vie future qui va être impactée par ça. Donc ils ont des raisons, on pourrait dire, légitimes d'aller mal, ces adolescents.
Est-ce que tous les adolescents sont égaux face à la santé mentale ? Vous venez de le dire, les filles sont plus concernées là, par le problème dont on parle. Le genre intervient donc, le contexte familial, socio-économique, le lieu de vie aussi ?
Alors je voudrais revenir un peu sur le genre aussi. On a dit les filles surexposées aux réseaux sociaux. Ensuite, elles sont plus impactées par le stress en lien avec l'école. Ça, c'est de tout temps, mais ça s'est aggravé en France comme ailleurs. Et puis, il y a quand même une chose aussi qui, je pense, impacte fort la santé mentale des filles. C'est autour du mouvement MeToo, toute cette libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes en général et qui, du coup, pour des petites filles entrant dans l'adolescence et des adolescentes au fur et à mesure qu'elles grandissent, peut être extrêmement... stressant, délétère, parce que on a peur. On perçoit le regard des hommes qui changent sur ce qu'on est, sur son corps et tout. Donc l'impact du genre, je crois, il est fort. Et puis tout ce que vous avez dit aussi, bien sûr, est vrai. Être un adolescent dans un milieu défavorisé, c'est pas pareil. Être un adolescent en campagne, éloigné de tout et sans recours autour de soi, c'est sûrement différent en tout cas. Alors il y a peut-être des avantages aussi à se promener dans la nature puisqu'on sait que ça protège aussi, ça fait du bien à la santé mentale. Donc le contexte joue un rôle très fort dans la manière dont les adolescents vont traverser cette période.
Autre fragilité supplémentaire, elle concerne ces adolescents en situation de handicap. C'est un public auquel vous portez une attention particulière en tant que chercheuse. Donc on le dit comme ça, c'est une fragilité supplémentaire pour des questions d'accompagnement à l'école, entre autres.
C'est sûr que c'est une vulnérabilité de plus, sachant que les vulnérabilités se cumulent. En effet, leur scolarisation n'est pas forcément facile. Ils sont plus la cible de harcèlement que les autres élèves, qui est un sujet sur lequel j'ai travaillé. Effectivement, leur scolarité est faite de ruptures, ils redoublent plus. Donc, surtout pour les collégiens, dans la mesure où ils sont différents des autres, ils sont surexposés à toutes sortes de phénomènes négatifs de la part de leur père à un moment où on veut tous être pareils. Mmh. Donc, pour eux, cette traversée de l'adolescence, elle est sûrement plus difficile pour cette raison et puis pour d'autres aussi.
Pour ne pas dresser un portrait trop noir de la situation donc sur la santé mentale des adolescents, on l'a dit, ces jeunes, ils sont très informés. Et c'est peut-être aussi parce que la parole se libère que les chiffres peuvent augmenter. On peut faire un parallèle avec le sujet des violences conjugales. L'augmentation des chiffres n'est pas forcément synonyme d'augmentation des violences, mais de femmes qui vont aller porter plainte plus qu'hier.
Non, mais bien sûr, il y a eu un gros phénomène de déstigmatisation de la santé mentale. Il y a des stars, ou en tout cas des célébrités, qui ont fait part de leur dépression, de leur suicide et tout ça.
Certaines très suivies, comme Billie Eilish,
par exemple,
chanteuse.
Que je ne connais pas, mais tout le monde doit la connaître à part moi, ça, il n'y a pas de doute. Donc, des gens ont parlé de leur santé mentale. Il y a eu des campagnes aussi portées par Santé publique France, par exemple, autour de cette déstigmatisation. Et finalement, ce que je crois, c'est que pour les adolescents et d'autres segments de la population, mais pour les adolescents en particulier, bah désormais, c'est beaucoup plus facile de dire qu'on va pas bien, de dire qu'on voit un psy, de dire le cas échéant qu'on prend un traitement. Et sûrement qu'une part des adolescents ont identifié la nécessité de demander de l'aide quand ça va pas bien. Et donc ça, forcément, ça fait augmenter les chiffres. Et puis, quand même, je voudrais juste revenir sur une chose. 8 adolescents sur 10 nous disent qu'ils vont bien, donc ce qui prouve qu'ils relativisent ces troubles ou ces symptômes qu'ils éprouvent. Et c'est aussi un moment d'opportunité, l'adolescence. Donc, ils ont une énergie, une envie et une capacité à faire qu'il ne faut pas du tout négliger. Mais pour autant, il ne faut pas non plus nier le fait qu'une frange non négligeable de cette population a besoin de nous et de notre vigilance. Quand je dis nous, je veux dire nous, les adultes.
Mmh. L'autre chose rassurante, c'est que le sentiment de mal-être, il diminue l'âge avançant. C'est particulièrement marqué pour les collégiens. Il y a des choses qui s'améliorent pour les lycéens, c'est ça ?
C'est ça. Au collège, globalement, tout se dégrade. Mais il faut dire que le collège, c'est un moment particulier parce que c'est le plein boom de la puberté. Et puis, on arrive de l'école primaire où on est plutôt dans un cocon, un seul enseignant, tout ça. On arrive au collège avec tous ces enseignants, ces emplois du temps.
Il y a une forme de perte de repère.
Voilà, perte de repère. Les emplois du temps ne sont pas faits pour le bien-être des élèves. C'est le moment donc des gros bouleversements hormonaux aussi, de la puberté, qui fait qu'on n'a plus sommeil le soir, mais on a sommeil le matin. C'est physiologique, c'est un décalage qui est... c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas sommeil le soir, ce n'est pas juste pour faire suer leurs parents, et ce n'est pas de leur faute s'ils ont du mal à se lever le matin. Même chose. Donc, du coup, c'est un moment de fragilité. Et puis, c'est le moment où, comme on est en train de se constituer, on se regarde par rapport au père, on veut se distancier des parents, donc dans lequel on veut tous être pareils et il y a des pressions fortes qui sont éprouvées au collège dès qu'on est un peu différent. Au lycée, on a franchi ce cap, on est habitué à ce mode de scolarisation. Il y a une pression, bien sûr, mais qui est différente et on sait peut-être un peu mieux la gérer. Et puis, on est sorti de cette entrée dans l'adolescence et on a moins de difficultés, je dirais, à s'affirmer en tant que tel. Et du coup, bah, on se sent mieux.
Mmh. Le café de l'espace des sciences auquel vous participez, donc on le redit, c'est ce mercredi 8 janvier à partir de 18h30 au café des Champs Libres à Rennes. On imagine qu'il s'adresse alors peut-être à ses adolescents et puis à ceux qui les côtoient, en premier lieu les parents, également les enseignants. Quels sont les signaux finalement qui doivent alerter l'adulte face à un adolescent qui semble en situation de mal-être? Et on sait que c'est un âge où la communication peut parfois être difficile.
Et voilà. C'est peut-être normal de la part de tout adolescent de devenir différent, notamment vis-à-vis de ses parents, à ce moment-là. C'est un peu normal d'être en rébellion contre ses parents, c'est un peu normal de ne pas vouloir dire oui tout le temps à leurs demandes et de ne pas vouloir les embrasser dès qu'ils veulent. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que les parents doivent être attentifs à des changements de comportement qui s'installent et qui vont tout le temps dans le même sens. Parce qu'un adolescent de base, si ça veut dire quelque chose, il fluctue dans ses attitudes et ses comportements. Un adolescent qui s'enfonce dans une dépression ou dans des troubles de sa santé mentale, il va s'inscrire dans des types de comportements de manière plus durable et sans changer tout le temps. Donc ça, la dégradation des résultats scolaires aussi, qui est un signe important à regarder. Et puis pour les adultes, par exemple pour les parents, voir ce qui se passe à l'école aussi, donc voir avec les profs si effectivement en classe tout ça, ça va pas. Et puis surtout... maintenir le dialogue ouvert avec son adolescent sans être dans le jugement et qu'il sache qu'il peut parler normalement. En tout cas, maintenir le dialogue avec ses adolescents, c'est quand même la première chose à faire. Et aussi, je voudrais insister sur le rôle de l'école. Vraiment, donc, les parents peuvent se retourner vers l'école pour savoir comment ça se passe à l'école. Et il y a aussi un message à faire passer aux adolescents, qui est que à l'école, ils ont des interlocuteurs vers lesquels ils peuvent se retourner si ça ne va pas ou s'ils ont l'impression que l'un de leurs camarades ne va pas. Des profs avec lesquels ils s'entendent bien, des surveillants, enfin des personnels d'éducation, mais aussi les personnels santé sociaux. Il y a tout le temps une infirmière, il y a des médecins qui sont là parfois, pas souvent, mais on peut savoir quand est-ce qu'ils sont là. Il y a des assistantes de services sociaux. Bref, il y a des gens dont le métier est d'écouter et de s'occuper de la santé mentale. Et puis aussi, l'école, avec l'école promotrice de santé, avec les référents de premiers secours en santé mentale, à sensibiliser un maximum de ses personnels à la question de la santé mentale et au repérage des signaux faibles. Donc, normalement, il y a quand même une série de filets de sécurité pour éviter que les adolescents qui commencent à aller mal s'enfoncent dans des troubles plus graves.
Et on peut terminer en ajoutant qu'il existe aussi des ressources hors de l'école à mobiliser en ligne, par téléphone.
Exactement. La ressource la plus dédiée aux adolescents sur leur santé au sens large, et donc leur santé mentale, c'est le Fil Santé Jeune, qui est une ressource très très riche et très polymorphe pour répondre à toutes les questions qu'on se pose sur ce qu'on traverse, notamment au moment de la puberté. Mais il y a des entrées santé mentale, il y a des entrées transformation du corps, sexualité, consentement, enfin plein de choses vraiment dédié aux adolescents et qui est un site qui est porté par Santé publique France. Et puis, il y a aussi Psychom, qui est un site qui n'est pas dédié aux adolescents, mais qui est dédié à la santé mentale. Et là aussi, qui est très riche et qui peut être une aide précieuse pour les parents. Et puis enfin, il y a des numéros. Donc le 3114, qui est un numéro national dédié à la prévention du suicide, pas que pour les ados, mais tout le monde, mais aussi pour les ados, et puis SOS Amitié. Enfin, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des informations sur des sites qui peuvent aider les gens qui ne vont pas bien, soit les gens directement, soit leur entourage, pour les aider à aider ces adolescents ou ces personnes qui ne vont pas bien.
Emmanuel Godot, vous êtes médecin de santé publique, enseignante-chercheuse à l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique, et vous serez donc l'invité du premier café de l'espace des sciences de l'année. Ça se passe ce mercredi 8 janvier à partir de 18h30. Vous avez encore le temps de courir au café des Champs Libres à Rennes si vous êtes en centre-ville. Et puis le programme complet des autres rendez-vous de l'espace des sciences est à retrouver en ligne sur le site espace-sciences.org. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.